plus à l'oreille.
Promouvoir la biodiversité de proximité.
Sébastien, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on vous parle d'oiseaux, évidemment, et un en particulier, le bouvreuil pivoine.
Oui, alors oiseaux, forcément, car à cette époque, pour parler insectes, c'est plus compliqué. Pour parler reptiles, c'est plus compliqué. Mais vous allez voir, dans les chroniques à venir, je vais y arriver.
Le printemps se fait sentir.
Oui, déjà. Donc, on parle d'un oiseau qui s'appelle le bouvreuil pivoine, et comme son nom l'indique, il y a de la couleur.
Et c'est un oiseau que tu as pu observer par chez toi.
Oui, alors l'Éterloo, qui est le centre de vacances à la sortie du village de Doucy-en-Bauges, il est à l'abandon et il est entouré d'érables. Ils avaient mis comme végétation décorative des érables. Et ces érables, ils font des fruits, les samars, qu'adore le bouvreuil pivoine. Donc déjà là, il avait le couvert. Et puis de l'autre côté de la route, à 10 mètres du centre de vacances, il y a un gros bosquet de conifères. Et donc voilà un gîte parfait pour les bouvreuils qui, dès la moindre alerte, vont se réfugier dedans et qui vont, pour la nuit, passer leur nuit dedans. Donc ça s'appelle donc un dortoir. Ils ont donc là tout ce qu'il faut. Et donc je les ai observés. C'est un oiseau assez facile à observer. Tête la première, il se baissait pour récupérer une graine. Il était posé sur l'érable. Et hop, il amène la graine, il a la graine dans le bec, la partie charnue. Et après, il donne un coup de bec, ce qui fait tomber l'aile. Et lui, hop, il avale la partie charnue qui est donc la graine.
On vous met bien sûr des photos en podcast, dans la description du podcast sur radioalto.info. Et on remarque justement là sur cet oiseau les belles couleurs du mâle, notamment. Oui. Peut-être c'est le moment de le décrire.
Allez,
comment il ressemble, ce bouvreuil pivoine.
Alors, c'est la taille d'un moineau qui n'a pas du tout fait attention pendant les fêtes de Noël. Donc il est trapu, quoi. On le sent à l'aise, tu vois. Il ne doit pas avoir froid, lui. Le dos et le début des ailes est gris. Le croupion est blanc, donc ça contraste vraiment. Et puis ça contraste avec la queue et l'extrémité des ailes qui est noire. Il a une barre blanche qui est visible sur l'aile, comme le pinson des arbres. Mais surtout, il a la gorge, les joues, la poitrine, les flancs et le haut du ventre qui sont rouge pivoine chez le mâle.
Très belle couleur.
Très jolie. Et un peu plus clair chez les femelles, on sait, elles doivent être plus discrètes quand elles sont au nid, donc beige rosé chez la femelle. Mais on reconnaît quand même très bien la femelle parce que la tête du bouvreuil est massive, la calotte, les yeux, le bec, sous le bec, les joues. Donc il y a une grosse zone au niveau de la tête qui est d'un noir intense et qui du coup contraste vraiment avec la poitrine qui change de couleur complètement. Les délimitations des couleurs, c'est franc, c'est vraiment magnifique. Et le bas du ventre et sous la queue, c'est blanc.
J'imagine qu'on a plusieurs sous-espèces
de bouvreuil. Il y a plusieurs sous-espèces de bouvreuil pivoine qui est due à une grande aire de répartition et des zones où finalement ils ne se croisent plus. Donc il y a des distinctions qui se font entre différents groupes.
Pour le chant, est-ce que tu vas me faire un petit plaisir ?
Mais évidemment, Charlotte, évidemment. Donc le chant, c'est un sifflement en deux notes, un petit peu tristouné, un petit peu nostalgique. Donc ça fait un truc comme... Et ça n'arrête pas, parce que ce sont des cris sociaux, c'est des oiseaux qui vivent en groupe. Donc ils ont toujours besoin de savoir où est l'ensemble du groupe quand ils s'éloignent un peu, à deux ou trois, pour aller manger dans un coin ou dans un autre. Je l'ai bien vu là à l'Éterloo, donc on les entend dans les conifères. Puis hop, t'en as trois qui partent direction l'Éterloo. Hop, t'en as deux qui partent direction un verger qui est un peu plus loin. Puis hop, t'en as trois qui arrivent de l'autre côté. Donc voilà, ils vivent en groupe, mais ils se déplacent quand même par deux ou trois pour aller manger, pour faire des choses et d'autres. Et ils ont donc toujours besoin de savoir où est le noyau du groupe pour ne pas se perdre. Et donc, c'est avec ces petits cris. Et si on écoute bien, entre ces cris, on a des accompagnements bizarres de bruits comme Radio Alto qui passerait mal, tu vois.
Ce
qui n'arrive jamais, évidemment. Donc, des petits bruits métalliques comme le transistor quand on tourne. Bon, bref. Ça, j'imite beaucoup moins bien que les oiseaux. Donc, ça nous permet de pouvoir dire ça. C'est le bouvreuil pivoine.
Il aime le milieu forestier.
Feuillu, conifère, mixte, peu importe. En tout cas, ce qu'il préfère, c'est les forêts claires, donc qui sont pas trop denses. Et c'est pour ça qu'il apprécie le bocage, quand il y a beaucoup de haies, les vergers, les plantations et les parcs et jardins, même en ville.
Oui, parce que c'est pas un oiseau de haute montagne, c'est plutôt un oiseau de plaine.
Plaine et moyenne montagne. Donc nous, on est pile poil dedans, ça va impeccable. Il lui faut donc ses arbres et ses strates parce qu'il apprécie surtout les strates inférieures et herbacées parce qu'il va pouvoir trouver son alimentation dedans. Et puis parce qu'il va cacher son nid aussi à l'intérieur. C'est un oiseau que, alors moi j'observe très souvent, enfin quand j'observe, toujours il est très haut dans les arbres, et j'ai appris en faisant cette chronique, figure-toi, que son nid ne le fait qu'à 2 mètres, voire plus bas. Donc c'est assez étonnant pour cet oiseau, très coloré.
Il fait partie des migrateurs partiels ?
C'est ça, on a déjà les nôtres, mais il y a pas mal de migrateurs qui arrivent du nord et qui rejoignent la France pour l'hiver. Et c'est donc dans certaines zones, les gens ne les observent qu'à ce moment-là, puisqu'ils sont nombreux, et comme ils cherchent à manger, ils n'hésitent pas à s'approcher des maisons.
Quel est son comportement à ce bouvreuil pivoine ?
Eh ben, c'est un oiseau qui est calme et timide. Donc je disais, facile à observer, parce que quand tu l'as vu perché, tu t'arrêtes, et ben si tu bouges pas, il reste là. Il est sur sa branche, il a accès à ses graines d'érable, il mange tranquillement, tu peux l'observer une demi-heure. C'est pas une mésange qui va paf paf passe d'une branche à l'autre, revient, redescend, remonte, machin. C'est vraiment très calme. C'est un oiseau qui est émotif, et les bagueurs, ceux qui mettent des bagues aux oiseaux pour pouvoir les suivre, le savent très bien. Si tu le manipules trop longtemps ou trop violemment, et ben arrêt cardiaque, terminé.
On a dit qu'ils se baladaient en petits groupes hein, quand c'est pas la période
des
petits.
Oui, c'est ça. En fait, il vit en groupes sociaux de quelques dizaines d'oiseaux maximum. Donc là, à l'Éterloo, je pense qu'ils doivent être 10-12. Et puis le reste de l'année, ils doivent avoir qu'une nichée par an. Et les petits restent très longtemps avec le couple. Donc ils vont se balader, le petit groupe familial. Voilà. Donc c'est pas un oiseau c'est un oiseau qui aime bien être en groupe, soit familiaux, soit après sociaux. Mais quoi qu'il arrive, en petit groupe.
Et ce qui est rigolo, il y a une image d'ailleurs sur le podcast, hein, c'est qu'on va rarement le voir au sol, il va faire des acrobaties. Même
oui, c'est ça.
Même s'il n'est pas très haut, il reste sur sa branche.
C'est ça, il va pas se poser au sol, même si on va voir, hein, il mange des graines d'herbacées, donc qui sont à 50 cm de haut. C'est parce qu'il va il aime pas trop descendre au sol.
Côté alimentation, il va faire un peu la fureur de ceux qui ont des arbres fruitiers, parce qu'il va se régaler il va se régaler de bourgeons.
Et oui, il va manger les bourgeons au printemps, donc tout le monde ne l'apprécie pas. Mais voilà, c'est sa densité aujourd'hui fait que ça va, c'est pas des dégâts monstrueux. Et puis le reste de l'année, il va se nourrir de graines. Donc soit les petites, qui sont celles des plantes herbacées, on vient de le dire, hein, mais qui ne sera jamais récoltées au sol, il les récupère encore dans les fleurs séchées. Soit des plus grosses, là c'est carrément celles d'arbres, comme le charme, l'érable, on l'a vu, ou carrément les graines des conifères, sapins ou pins. Et puis, il peut aussi manger des baies, et vous le verrez là sur une des photos sur le podcast. Il en a partout autour du bec, alors qu'en fait, cette baie, il aurait très bien pu l'avaler d'un coup, comme tous les petits oiseaux auraient fait. Mais lui, la pulpe ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la graine qui est à l'intérieur. Donc là, il est en train de faire le tri, et la pulpe lui tombe de chaque côté du bec. Ça rappelle un oiseau qu'on a déjà vu et qui fait pareil, qui est...
Le gros bec casse-noyau.
Le gros bec casse-noyau, qui va se débarrasser de la chair de la cerise pour casser le noyau de la cerise et manger l'amande qui est à l'intérieur. Ils sont fous, ces oiseaux.
Côté reproduction, on a dit hein, que le mâle avait cette couleur-là pour attirer la femelle. Comment va se passer la parade nuptiale ?
Eh bien, il y a vraiment une vraie parade nuptiale qui existe. Ça n'existe pas chez tous les petits oiseaux comme ça. Hein. Chez la mésange, par exemple, il n'y a pas vraiment de parade nuptiale. Là, le mâle, il va mettre en valeur les belles couleurs de sa poitrine. Hein, il va faire le beau. Il va abaisser aussi ses ailes afin de montrer ce magnifique croupion blanc. Et puis il va se dandiner autour de la femelle, voire même il va régurgiter des graines dans le bec de la femelle. Mais quel cadeau !
Ah ben là, on ne peut pas refuser.
Mais quel gentleman ! La femelle, elle va gonfler ses plumes, se penche et tourne d'un côté à l'autre. C'est vachement moins sympa. Bon, bref.
Et tout ça, c'est fait pour quoi alors, cette parade ?
Eh bien, c'est fait pour consolider simplement les liens du couple, parce qu'on pense que les verdiers bouvreuil pivoine, les couples perdurent d'une année sur l'autre. Donc c'est juste pour se remettre en condition, en se disant c'est bon, cette année t'es prêt, ouais on y va, allez go.
Et ce qui est intéressant dans cette espèce, c'est le rôle, la place de la femelle.
Ah oui, ça je sens que ça te plaît. Hein.
Oui, ça me plaît beaucoup.
C'est la femelle qui a le rôle dominant dans le couple, c'est elle qui décide. Et c'est en fait le cas dans pas mal d'espèces, il faut le dire. Et chez les humains aussi, malgré ce qu'on veut bien dire. Le mâle choisit le site de nidification et c'est la femelle qui construit le nid. Ah là, on voit déjà des trucs un peu moins sympas. Il pourrait participer quand même, monsieur. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nid, il est construit assez bas, à 2 mètres ou moins en général, parfois, enfin au plus à 5 mètres, dans un arbuste ou un buisson bien dense pour pas qu'on puisse le voir. Et particularité de cette espèce, le bouvreuil, il apporte de la nourriture aux poussins dans des poches spéciales qui sont situées à la base de son bec, de part et d'autre de la langue. Donc ça lui fait un peu comme le hamster, là, il est de côté. Alors que les autres membres de la famille des fringilles, puisque c'est un fringille, le bouvreuil, il stocke la nourriture dans la gorge et puis il régurgite pour les petits. Et cette nourriture des petits, elle est souvent faite à base d'invertébrés.
Voilà pour le bouvreuil pivoine. À vos observations, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous envoyer vos photos, vos commentaires, vos questions à seb@colocataire.com ou contact@radioalto.info. On se fera un plaisir d'en faire une chronique. La semaine prochaine,
Sébastien. La semaine prochaine, on parle du pinson du Nord, un oiseau qui lui aussi nous rejoint. Mais par contre, aucun individu ne reste en France, il repart dans le Grand Nord.
Très bien, on en parle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine alors.
Vous venez d'écouter La Puce à l'oreille,
la chronique biodiversité de Radio Alto.
Retrouvez-la en podcast sur le site radioalto.info
et sur le site colocataire.com. Terre, T-E-2-R-E.